BW. Vue d'Allemagne.
Des livres, des articles de presse à ne plus pouvoir les compter, des documentaires, des séries, des concerts, des podcasts. Jamais on avait autant fêté le Bauhaus en Allemagne que cette année pour son centenaire 1919-2019. Architecture, art, construction, le Bauhaus, c'est un mélange de tout cela. Une création allemande qui a influencé le monde entier sans même qu'on s'en rende toujours compte. Alors pour mieux comprendre et en parler, on s'est rendu et on vous emmène à Weimar, en Thuringe, dans l'est de l'Allemagne aujourd'hui. Là où tout a commencé. Vous écoutez Vue d'Allemagne, Willkommen, je vous souhaite la bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes donc à Weimar aujourd'hui, ville où le célèbre Johann Wolfgang von Goethe ou encore l'écrivain et poète Friedrich von Schiller ont passé une bonne partie de leur vie. Weimar, ville moyenne de 65 000 habitants. À l'histoire chargée donc, car c'est ici aussi qu'est né le Bauhaus en 1919 à l'université de la ville où l'on retrouve ce matin Thomas Appel, employé de l'établissement et en charge cette année de tous les événements de l'université liés au 100e anniversaire du Bauhaus. Entre deux coups de téléphone, celui qui connaît bien le Bauhaus a étudié ici, commence par nous expliquer ce que c'est ce Bauhaus. Retour un siècle en arrière.
Vor 100 Jahren wurde hier in Weimar das staatliche Bauhaus gegründet.
Il y a 100 ans, le Bauhaus a été créé ici à Weimar. C'était en fait une école pour les artistes, les artisans et les architectes, avec un axe sur l'atelier. Un des principes est alors de faire, d'essayer, de tester pour construire le futur.
Bauhaus, es steckt da drin der Bau, also
Bauhaus, il y a dans le mot Bau, bauen, ça veut dire construire, et das Haus, la maison en allemand. C'était l'objectif du fondateur Walter Gropius, fonder l'architecture du futur. Tous les élèves qui venaient ici devaient se concentrer sur le logement du XXe siècle. À quoi ça doit ressembler? Comment ça doit être à l'intérieur? Comment on vit dedans? Comment on construit? C'était le thème central de l'école.
Une école, voilà ce qu'était donc le Bauhaus au départ. École où tous devaient apprendre un métier manuel. Architecte, artisan, artiste, l'idée était que tous travaillent ensemble au lendemain de la Première Guerre mondiale qui vient de faire près de 20 millions de morts.
Ce n'est pas par hasard. Gropius a été lui-même officier pendant la Première Guerre mondiale. Il vit la guerre de près. Et qu'il revienne au métier manuel, c'est une réaction à la guerre, comme un retour à la terre. Il se dit, il faut qu'on revienne tous au calme, qu'on réfléchisse, et ça ne marchera que si on a tous une base. Et cette base, il la voit dans l'artisanat.
Rapidement, des premières idées émergent donc dans les bâtiments de l'université où l'on est. On dessine des maisons, on construit des objets du quotidien, des tasses, des bureaux, des lits, des tables. Les lignes du Bauhaus prennent forme. Des lignes dont les traces historiques se trouvent dans l'ancien bureau du fondateur de l'école, Walter Gropius, où nous emmène maintenant Thomas Appel. Un bureau historique bien fermé à clé aujourd'hui derrière cette porte en bois. Une salle de 5 mètres sur 5 mètres sur 5 mètres, un cube donc très particulier.
C'est typique du Bauhaus. On travaille avec des formes de base, des triangles, des cercles et des carrés. Et dans cette pièce, il y a des meubles. Et on voit que les fauteuils ici ont une forme de cube. On voit une table qui a une surface de travail carrée. On voit beaucoup de surfaces lisses, des surfaces qui rappellent les formes de base. Il n'y a que des angles droits partout. C'est souvent ce qu'on s'imagine aujourd'hui en pensant au Bauhaus, beau et pratique. Mais ici, à Weimar, c'était le début. Il fallait déjà que ce soit beau et qu'on définisse le concept. Si on regarde le bureau là, par exemple, on dirait un bureau sorti d'un gros bloc de bois. On ne voit pas de poignée pour les tiroirs, on pourrait se demander comment ça s'ouvre. Pour Gropius, il fallait réduire au maximum. Ça devait être simple, clair, avec le moins de pièces possible pour la construction. Ce qu'on voit, c'est une pièce artistique. C'est devenu plus tard plus pratique, car si quelqu'un achète quelque chose, il faut que ça fonctionne. Mais à Weimar, on était surtout dans la recherche de comment ça devait paraître.
Aujourd'hui, les touristes occidentaux en visite ici disent parfois que le bureau ressemble à une exposition de la chaîne de magasins IKEA qui vend ses meubles très carrés dans de très nombreux pays du monde. Le jeu des couleurs qui se mélangent, accentue cette idée. Des lignes et un style qui influencent rapidement les élèves de l'école au début des années 20.
Hallo Hanna, bist du schon da? Du sollst sofort ins Direktorenzimmer kommen.
Cette influence, c'est une étudiante qui nous rejoint, qui la raconte. Anna Schnelle fait des visites sur les traces du Bauhaus ici à Weimar.
Les bâtiments comme la Haus am Horn qui est ici à Weimar, c'est précurseur de l'architecture moderne, comme on trouve les bâtiments aujourd'hui. Mais ça a aussi laissé des traces sociales, et c'est ça qui est impressionnant.
Le Bauhaus nous affecte encore tous. Ou autrement dit, ce que le Bauhaus a fait, c'est une nouvelle conception du cadre de vie. Du cuiseur à œufs au bureau, en passant par les lustres, tout ce qu'on utilise au quotidien a été revu et corrigé ou nouvellement créé par le Bauhaus. Si on regarde cela dans le bureau aujourd'hui, on se dit « Tiens, j'ai déjà vu cela chez IKEA ou ailleurs ». On voit que ce qui a été fait il y a 100 ans nous imprègne toujours aujourd'hui. Et on peut un peu s'imaginer comment cela était il y a 100 ans. Si cela nous semble moderne à nous aujourd'hui encore, les gens il y a 100 ans, comme c'était nouveau, pouvaient se demander, eux, mais qu'est-ce que c'est que cette conception ?
Pour bien se rendre compte, Anna Schnelle nous emmène à la Haus am Horn dont on parlait, bâtiment Bauhaus de 1921, un petit kilomètre à vol d'oiseau et à quelques kilomètres en voiture.
On voit bien ce que je viens d'expliquer. On voit une maison moderne avec des lignes claires, un toit plat peint en blanc, une structure claire et la base est carrée.
Perfect.
Perfect, yeah.
Si on résume, le Bauhaus, c'est donc une école lancée en 1919 ici à Weimar. On y forme des architectes, des artistes, des artisans qui produiront bientôt des bâtiments et des objets du quotidien avec des lignes et un style qui laisseront des traces dans le temps. Mais l'école du Bauhaus va plus loin encore. Et pour comprendre les détails, on a rendez-vous au musée du Bauhaus, un tout nouveau musée ouvert pour le centenaire du Bauhaus en avril dernier. Il fait face et est plus grand même que le Gau Forum en centre-ville, l'ancien bâtiment de l'administration nazie pendant la guerre. Une volonté de ses concepteurs comme un pied de nez à l'histoire, parce que le Bauhaus a été interdit par les nazis dans les années 30. En fait, l'école avait déjà dû quitter Weimar en 1925, 6 ans après sa création en 1919 seulement, sous pression politique et par manque d'argent. Elle s'était alors installée à Dessau, en Saxe-Anhalt, la région voisine. Mais en 1932, les nazis qui se sont emparés de la majorité au conseil municipal interdisent tout simplement le Bauhaus à Dessau. L'école s'installe donc à Berlin, mais ça sera fermé l'année d'après, en 1933, date de l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Fin de l'histoire donc pour le Bauhaus, moins de 15 ans après sa création, mais pas fin de l'influence de l'école. Au premier étage du musée, en costume et en français s'il vous plaît, on retrouve Patrick Will de la Klassik Stiftung de Weimar, une des plus grandes fondations culturelles d'Allemagne qui gère le musée du Bauhaus notamment. Patrick Will montre des objets du quotidien, des tasses, des lits, des récipients, des verres, mais aussi des peintures ou des photos.
Ici, dans cette salle-là, on veut montrer que, dans le Bauhaus, il y avait une grande variété d'art qui était représentée. Hein. Là, vous voyez ici que Walter Gropius n'était pas seulement un très bon architecte, mais aussi un très bon, comment on dit ça, influenceur ou un type dans le sens de networking, hein, qui était capable de vraiment inviter les artistes les plus reconnus de cette époque-là. Et c'est vraiment l'idée de Gropius de fonder le laboratoire de la modernité ici à Weimar. Hein. Une idée aujourd'hui on dirait assez folle, hein, mais ça marchait.
Plus loin, même si le musée ne regorge pas d'explications, on découvre que le Bauhaus a aussi lancé un théâtre. L'influence du Bauhaus sur le design, on découvre encore les questionnements des acteurs du Bauhaus entre les deux guerres, des questions sur la vie en général, le clivage entre l'envie de retour à la nature, à l'essentiel, ou le saut encore plus loin dans l'industrialisation qui continue de se développer à grande vitesse en Europe.
Si on cherche vraiment une grande question qui se posait le Bauhaus de Walter Gropius, c'est vraiment cette question-là. Comment est-ce que nous voulons, une année après la fin de la Première Guerre mondiale, vivre ensemble maintenant, hein? C'est quoi l'idée d'une communauté? Très actuellement, en Allemagne, en Europe, je pense partout dans le monde, on vit de nouveau dans une crise de logement. Hein? Cette époque-là du Bauhaus, les années 1920, c'était aussi une époque de crise économique, hein, où on se posait les mêmes questions. Alors oui, il y a beaucoup de choses qui sont actuelles, hein, même cette idée simple de se poser la question où se retrouve l'être humain dans ce conflit entre nature et technologie, ça c'est quelque chose de très actuel.
De quoi comprendre peut-être pourquoi l'anniversaire du Bauhaus a eu autant de succès en Allemagne cette année. L'école, le Bauhaus, c'est de l'histoire, elle n'existe plus, mais des traits architecturaux du Bauhaus ou des influences sur les objets du quotidien, le design, sont toujours présents dans la société allemande. Et les questions du Bauhaus aussi, des questions sur la vie. Le musée projette d'ailleurs un film ici. Des citoyens lambda expliquent ce que représente pour eux la communauté, le terme communauté, et sur comment ils aimeraient vivre au quotidien.
Unsere gespaltene Gesellschaft war auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, weswegen wir das so, das Thema auch so aktuell sehen und warum wir.
Et tout cela semble parler, avoir de l'écho et attirer. Le musée du Bauhaus de Weimar a accueilli depuis avril près de 250 000 visiteurs, alors que ses responsables en attendaient 100 000 par an sur 12 mois. Les visites de l'université à pied à travers la ville dont s'occupent Anna Schnelle et Thomas Appel que vous entendiez au début de ce reportage ont aussi doublé de fréquentation cette année. Et en ce mois de décembre, de nouveaux événements autour des 100 ans du Bauhaus sont toujours prévus en Allemagne, mais aussi à Chicago, à Barcelone ou au Japon. J'espère en tout cas que ce magazine vous aura permis de comprendre un peu mieux le Bauhaus. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de ce magazine. D'ici là, vous retrouverez tous les anciens sur notre site internet dans les podcasts à télécharger. Je vous souhaite alles Gute, portez-vous bien, bis bald et à très bientôt. Tschüss !